Marsactu, bonjour.
Oui, bonjour, je cherche à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser.
Oui, attendez un instant, je m'isole. Oui, je vous écoute.
Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Dans ce podcast, on vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une journaliste de la rédac prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez, entrez et fermez derrière vous, vous êtes dans le bocal, saison 2.
Pour ce nouvel épisode du bocal, nous retournons au palais de justice. Ce lundi a démarré un procès fleuve dont la juridiction de Marseille s'est faite une spécialité. Il concerne le trafic de drogue et plus spécifiquement le point de deal des Oliviers A, l'une des grandes cités du Vallon de Malpassé dans les quartiers nord où les ensembles HLM ont de jolis noms bucoliques, les lauriers, les lilas, les cyprès ou les oliviers. Le quotidien est beaucoup, beaucoup plus sombre. Je suis Benoît Gilles et je remplace Violette Artaud, l'animatrice habituelle du bocal, partie pour quelques mois sillonner le globe. Je reçois aujourd'hui Clara Marteau-Bacry, qui va suivre pour Mars Actu ce procès qui s'étale sur près d'un mois. Bonjour.
Bonjour.
Tu suis les questions de justice et de police pour Mars Actu. Tu es une des autrices de L'Emprise, la série que Mars Actu consacre au long cours au trafic de drogue et à ses effets sur la ville. Qu'est-ce qui, pour toi, fait la spécificité du point de deal des Oliviers A?
Eh bien, sa spécificité, c'est que depuis de nombreuses années, c'est l'un des points de deal les plus importants de Marseille. Et notamment, je pense qu'on s'en souvient, si on suit cette thématique, parce qu'à l'été 2021, on en parlait beaucoup, parce que c'était une des cités impliquées dans la guerre, entre guillemets, des clans qu'il y avait eu cet été-là. Et on en entend beaucoup moins parler ces derniers temps. Et pourtant, encore aujourd'hui, ça reste un des points de deal les plus importants de Marseille. Donc voilà, ça reste dans ce qu'on appelle, enfin, ce que les policiers appellent le top 5 des gros points de deal de Marseille. Et même quand on a fait plus des articles sur les consommateurs ou les jobbers, c'est un nom de cité qui revient très souvent. Ça reste une cité qui est très très connue pour ça.
Donc les 25 personnes qui comparaissent jusqu'à la fin du mois constituent l'intégralité du réseau.
Alors, on a en effet toutes les strates du réseau. Par contre, on n'a pas tout le monde. Enfin, notamment, c'est un chiffre qui m'a marqué, donc je le donne. Dans l'enquête sur les Oliviers, les enquêteurs disent qu'il y a une vingtaine de guetteurs qui surveillent le point de deal des Oliviers. Donc là, on voit qu'il y a 25 personnes qui comparaissent. Donc non, on n'a pas du tout l'intégralité du réseau. Par contre, on a toutes les strates. C'est-à-dire qu'on a à la fois les nourrices, donc les personnes qui cachent de la drogue, de l'argent ou des armes chez elles. Ensuite, les jobbers, donc d'abord les guetteurs, ensuite les vendeurs, ceux qui sont à la sacoche, comme on dit. Et ensuite, on a énormément de strates intermédiaires. Et c'est ça qui est très intéressant. Et à la fois des intermédiaires, on va dire, terrain, et à la fois logistique. C'est-à-dire, on a des chefs de guetteurs, enfin des placiers de guetteurs, qui sont chargés de vérifier que les jobbers arrivent, leur donnent la paye, etc. Et à la fois, côté logistique, transport de stupéfiants, transport d'argent, comptabilité, etc. Donc on a vraiment tout ce tableau RH, en fait, du trafic.
Et donc, l'organisation du réseau tel que tu l'as décrit dans l'article que tu t'as fait paraître ce lundi, ressemble à un modèle d'entreprise fordiste, extrêmement découpé dans ses fonctions, avec justement, tout en bas de l'échelle, ce qu'on appelle les jobbers. Alors, c'est quoi un jobber dans l'économie du deal et aux Oliviers en particulier?
Ouais. Alors, c'est vrai que jobber, c'est un terme générique, en fait, qui regroupe plusieurs métiers, mais en tout cas, ceux qui sont en bas de l'échelle du deal. Donc, c'est des gens qui sont payés, selon les procédures, ça varie entre 100 et 150 euros la journée. La journée, donc ils font des grosses journées de travail et soit qu'ils sont postés sur le terrain, donc ils font le guet. Ensuite, quand on acquiert un peu plus la confiance du réseau, on passe à la sacoche, donc on vend le produit. Et là, pour le coup, c'est une enquête qui a bien exploité ce terrain-là. On parle aussi de jobbers qui sont pas en fait sur le point de deal et notamment, et donc là on est vraiment dans l'esprit fordiste, on a des personnes dont la tâche consiste à découper le produit et ensuite à le pochetonner, voilà, c'est ça.
Le mettre dans les petits pochons qui voilà. servent à...
Donc on a un pochetonneur, en fait, un conditionneur. Et donc là, oui, on a vraiment cette image, je trouve, qui vient en tête de travail à la chaîne, quoi, où voilà, un travail complètement monotache et qui est très mal rémunéré, quoi.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont, hors de danger et qu'il ne peut pas y avoir des risques pour eux. Hein, parce que je crois que tu parles d'un jeune qui s'appelle Malcolm et qui va mal finir dans cette histoire.
Exactement. Un des deux pochetonneurs arrêtés dans cette affaire a été assassiné au cours de l'enquête, en fait, tout simplement. Il avait 21 ans.
Il y a aussi des nourrices, tu l'as dit tout à l'heure, avec des rôles très variables. On a toujours l'image de la nourrice qui va accueillir chez elle le stock de matos, hein, de shit, pas que de shit d'ailleurs, hein, parce qu'aux olivières, on trouve de tout, y compris des drogues synthétiques, de la coke, etc. Mais ils ont des rôles très variables et ils sont plus ou moins contraints, plus ou moins payés, plus ou moins... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce rôle des nourrices?
Alors... le profil, on a quand même un peu toujours une tendance qu'on retrouve. Donc, les nourrices, c'est souvent des gens qui ont au moins 30 ou même plutôt 40, 50, 60 ans. Des personnes qui sont plus ou moins contraintes, en tout cas qui vont ensuite plus ou moins collaborer avec la justice, qui finissent rarement en prison, qui sont plus placées sous contrôle judiciaire, etc. Et donc ensuite, oui, par contre, on a des configurations super différentes dans ce dossier. Donc on a par exemple une dame qui habitait à la Cité des Oliviers et qui était elle-même une grande consommatrice. Ça aussi, ça arrive souvent pour les nourrices. Et donc elle, par exemple, on explique qu'elle était rémunérée en produits. Pas du tout en argent. Elle gardait le cannabis chez elle et juste le soir, quelqu'un venait lui laisser plusieurs barrettes pour sa consommation et c'était ça sa rémunération. Et après, dans ce dossier, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas que les nourrices qui sont aux oliviers, on a aussi ce qu'on pourrait appeler des nourrices un peu relais, c'est-à-dire qui vont habiter en dehors de la cité. Parce qu'aujourd'hui, les trafiquants ont bien compris qu'on ne peut pas tout laisser au même endroit, parce que s'il y a une descente de police, on se retrouve vraiment à sec. Et donc, que ce soit à la fois le produit, à la fois l'argent et à la fois les armes, on en a qui sont stockés sur place, mais aussi qui sont stockés ailleurs. Donc, par exemple, on a un box à la Castellane, on a un box en centre-ville. Voilà, le but, évidemment, c'est toujours de diviser le capital. Comme ça, s'il y a une saisie policière, on ne se retrouve pas sans rien, quoi.
Et au sommet, en revanche, si on décrit une sorte de sous-prolétariat avec des tâches extrêmement répétitives, au sommet, en fait, on a des vrais spécialistes. Et c'est aussi ça que nous apprend ce dossier et ce procès en cours. Il y a des rouages essentiels du réseau qui sont payés en conséquence. Hein, c'est le cas des approvisionneurs, ceux qui vont amener le matos, donc l'ensemble des drogues, on va dire, des pays producteurs jusqu'à Marseille et au point de deal. Alors, on a deux figures comme ça qui sont décrites dans ton article. Il y a Tarzan et il y a Amjad, un ancien postier avec une ascension irrésistible. Est-ce que tu peux nous parler un peu du profil de ce Amjad?
Ouais, moi, c'est un des profils qui m'a le plus marqué à la lecture de cette enquête. Donc, c'est un homme qui a 34 ans aujourd'hui, qui est originaire du quartier. Et en fait, donc, qui est mis en cause avec sa compagne, d'ailleurs. Et donc, en fait, c'est les écoutes policières qui ont permis de comprendre que c'était un des fournisseurs des Oliviers, mais aussi d'autres quartiers dans Marseille. C'est ce qu'on entend dans les écoutes. Et donc, lui, donc, à la base, on regarde son train de vie. Donc, on voit qu'il a un train de vie assez hors norme, donc à la fois une résidence en région PACA, sur la Côte d'Azur, à la fois une résidence à Dubaï, sur les passeports, on voit qu'il y a beaucoup de visas, beaucoup de visas du Maroc, des Émirats Arabes Unis, etc. Et en fait, encore une fois, voilà, dans les écoutes, on insinue que lui, il gagne à peu près 100 000 euros par mois. Donc qu'il est multimillionnaire et qu'en fait, lui, son travail, c'est d'aller chercher le produit. Alors, ça n'a pas été établi, il n'y a pas eu de filatures qui ont établi que vraiment, il était allé au Maroc et ensuite qu'il était revenu, etc. Mais en tout cas, c'est ça qui est soupçonné, c'est ça que ses proches disent de lui. Et donc, voilà, lui, c'est ce qu'on appelle un fournisseur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on est vraiment sur le fournisseur à échelle internationale, en fait. Et voilà, c'est ça ce que cette enquête a retracé et que je trouve vraiment intéressant. Et donc, hier, donc je les ai vus, puisqu'hier, c'était hier, avant-hier, pour les auditeurs, c'était l'ouverture du procès. Et donc, ce lundi 11 mars. Et donc, lui, il est en détention provisoire et sa compagne, elle est à l'extérieur. Et ils ont raconté un petit peu leur état d'esprit actuel. Et donc, sa compagne, elle expliquait qu'aujourd'hui, elle est agente d'entretien et qu'elle fait le ménage chez les particuliers et qu'elle est contrainte de vivre chez sa mère. Et donc, on voit que l'ascension a été aussi fulgurante que la dégringolade derrière, quoi.
Oui, parce que cette dame, elle vivait à Dubaï, elle était, elle avait le train de vie des gens
qui... vêtements de luxe, ouais. Etc.
Ouais. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est les ménages avec son chéri qui est en tôle en attendant l'issue du procès. Justement, c'est quoi l'attitude des prévenus dans ce premier jour d'audience qui a démarré lundi ?
Alors, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plusieurs profils qui se dessinent, justement, vu qu'on a plusieurs strates. J'ai parlé des nourrices et puis en fait de manière générale tous les jobbers, ceux qui n'avaient pas des rôles importants, eux ils sont sous contrôle judiciaire, donc ils sont à l'extérieur. Ils sont quasiment tous venus lors du premier jour du procès, à l'exception de deux personnes, mais 2 sur 25 c'est quand même pas beaucoup. Et donc voilà, d'un côté on a ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent prouver que depuis qu'ils sont sous contrôle judiciaire ils essayent de travailler, et donc là on a des discours qu'on pourrait retrouver chez n'importe quel travailleur précaire, quelqu'un qui a fait de l'intérim dans une boîte d'assurance, quelqu'un qui avait un travail dans un commerce, il y a eu le Covid, du coup le commerce a fermé, vraiment des carrières complètement fracturées, mais une volonté, je ne sais pas si elle est feinte ou pas, mais en tout cas c'est le discours qui est tenu face au magistrat, une volonté de s'en sortir. Et après de l'autre côté, on a l'autre moitié des prévenus qui sont en détention provisoire. Et là, moi, ce qui m'a frappée, c'est que y en a qui sont en détention provisoire pour cette affaire, et il y en a à l'inverse qui étaient libres, mais qui sont en prison pour d'autres dossiers, parce qu'entre-temps, ils ont été mis en cause dans des affaires criminelles, et notamment... d'homicide en bande organisée. Et donc là, on a des attitudes beaucoup plus fermées où en fait, on se dit, les prévenus qui sont sur les bancs, on comprend que eux, ils vivent un petit peu leur vie et qu'ils espèrent ne pas aller en prison. Mais ceux qui sont dans le box et qui sont déjà en prison, on comprend que là, ils jouent pas leur vie à ce procès, qu'il y a des procès beaucoup plus graves qui les attendent derrière, quoi.
Et justement, combien d'années de prison ils risquent d'écoper en fin de procès ?
Alors, donc là, on est devant le tribunal correctionnel. Donc, les personnes les plus haut gradées risquent le maximum en termes délictuels, c'est-à-dire 10 ans, parce qu'on est sur à la fois infractions liées aux stupéfiants, pour certains aussi détention d'armes, etc., et association de malfaiteurs.
D'accord. Alors, si on a décidé de couvrir ce procès, c'est aussi parce que Mars Actu avait déjà enquêté sur ce réseau sous la plume de Coralie Bonnefoy. Et donc, on écoute un extrait de cet article paru en 2021.
Une chicane, puis un checkpoint. La première, dressée au moyen d'une barrière métallique, empiète sur la moitié de la chaussée. Quelques mètres plus loin, le second ferme délibérément la route. C'est un amas d'encombrants divers. Palettes, restes de mobilier, bouts de bois. Et pour le franchir, il faut attendre que le jeune garçon qui garde cette barricade de fortune décale un caddie chargé de pierres et de parpaings. Il ouvre alors un espace dans lequel un seul véhicule peut passer. Pendant ce temps-là, il regarde si tu planques pas un Condé, lâche un habitant. Voilà des mois que ça dure. Dans ce coin du 13e arrondissement, la rue Albert Marquet est la seule voie d'accès aux Oliviers A et aux immeubles des Lilas.
Alors, en quoi l'article que tu signes ce lundi et celui qu'écrit Coralie Bonnefoy il y a 3 ans se répondent ?
Sur beaucoup de points. Ce que Coralie Bonnefoy a décrit, c'est la vie de ce quartier au même instant que l'enquête. C'est-à-dire que cet article date de 2021. Et 2021, c'est l'année où les prévenus ont été interpellés. Et donc, on en parlait d'ailleurs avec Coralie. Elle me disait, mais c'est dingue, en lisant ton article, je retrouve, moi, tout ce qu'on m'avait dit à l'époque sur le terrain. Et notamment, moi, je trouve que ce qu'on retrouve, c'est à la fois les innombrables petites mains qui sont une figure un petit peu menaçante pour les gens du quartier, mais qui elles-mêmes sont menacées en fait par leurs supérieurs RH parce qu'elles se font crier dessus toute la journée, qu'elles ne sont pas payées si elles ont oublié de fouiller un camion, etc. Et aussi, je trouve moi j'ai vraiment le mot logistique qui me vient tout le temps à l'esprit à ce dossier, c'est-à-dire que Coralie, elle décrit un point de deal qui est très très lucratif, et en fait avec cette enquête, on découvre les dessous Et en fait, quelle organisation vraiment militaire et fordiste ces trafiquants avaient mis en place pour que ce trafic soit aussi prospère, quoi.
Il y a aussi beaucoup de violence, hein. Ce fordisme, comme on est dans une économie illégale, la violence, elle est aussi entre concurrents, mais à l'intérieur même de la structure, il y a de la violence qui s'exerce, hein, et tu le décris à plusieurs reprises dans ton article.
Oui, c'est quelque chose qui ressort vachement. Donc voilà, les gérants de terrain, donc les personnes qui gèrent les jobbers sur le terrain, donc on explique qu'il y en a un, par exemple, il fournissait les talkie-walkie aux guetteurs, mais après il écoutait ce que les guetteurs disaient, donc il y a un petit peu une sorte d'espionnage, on va dire, qu'il y a des écoutes où on entend un supérieur dire, qu'il l'insulte et qu'il lui dit, ok, toi aujourd'hui tu vas pas être payé parce que il avait oublié de fouiller un camion, des histoires de violence physique aussi, où ce supérieur dit, éclatez-le et je veux avoir la vidéo. Et on a des preuves presque tangibles de ce quotidien ultra violent que subissent ces petites mains et dont on parle tout le temps, mais là, vraiment, on va avoir des individus dans le box qui vont devoir s'expliquer de ça, quoi.
Et donc, ils sont 25 à comparaître, on l'a dit, mais est-ce qu'aujourd'hui, les Olivias, c'est une terre tranquille, sans deal ?
Alors, non. Je m'en doutais, mais j'ai même voulu vérifier avant de publier cet article. Et donc, j'ai une source policière qui m'a dit que non seulement ça tourne toujours, mais en plus, c'est toujours vraiment dans le très, très haut du panier. Et que, d'autant plus que les Olivias ont été épargnées par la guerre, entre guillemets, entre les clans des Z-Mafia et Yoda qui ont ensanglanté l'année qui vient de s'achever, l'année 2023, les Oliviers sont restés complètement à l'écart de ce conflit-là. Et donc, plus que jamais, en fait, c'est un réseau qui prospère. Déjà, les enquêteurs l'ont noté pendant l'enquête qu'il y a beau avoir le confinement, il y a beau avoir des interpellations tout le temps, des personnes qui meurent, enfin, la mort aussi est très présente dans ce dossier. En fait, rien n'a arrêté ce réseau. Et donc là, c'est toujours le cas aujourd'hui, quoi.
Bon, donc la suite au prochain épisode. Merci beaucoup, en tout cas, Clara, d'avoir participé à cet épisode du Bocal de Mars Actu. Si vous souhaitez en savoir plus, une seule adresse, hein, marsactu.fr, vous le savez. On ne vit que de vos abonnements, c'est le prix de notre indépendance. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux et à écouter les autres épisodes. Merci beaucoup.